9h30 à Paris, 8h30 en temps universel. RFI vous informe. Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Juan, bonjour à tous. À la une de ce journal, l'information confirmée par les autorités espagnoles cette nuit, un citoyen espagnol a été enlevé mardi soir en Algérie avant d'être emmené par des hommes armés au Mali. Certaines sources pointent du doigt la branche sahélienne du groupe djihadiste État islamique. Les provinces congolaises de l'Ituri et du Nord Kivu vont-elles voir leur état de siège levé? La mesure avait été prise il y a près de 4 ans maintenant, mais Félix Tshisekedi en personne a demandé une feuille de route à ses ministres pour une levée progressive. Et puis reportage à Brazzaville où, parfois contraints par des coupures d'électricité, les habitants s'adaptent dans leur manière de vivre au quotidien. C'est le cas de ces étudiants qui révisent à la nuit tombée grâce à la lumière des lampadaires. Un citoyen espagnol a donc bel et bien été enlevé mardi soir non loin de Tamanrasset dans le sud de l'Algérie. Des hommes armés l'ont ensuite emmené au Mali voisin. Réaction de Madrid cette nuit qui rapporte que diverses sources fiables confirme qu'un ressortissant est retenu contre son gré dans le nord de l'Afrique. Un enlèvement pour l'instant pas revendiqué, mais les sources jointes par RFI accusent la branche sahélienne du groupe djihadiste État islamique. Plus de détails avec David Baché.
À Sekrem est une zone montagneuse et touristique que les chancelleries occidentales déconseillent à leurs ressortissants. Selon plusieurs cadres rebelles du FLA dans le nord du Mali et selon des sources communautaires locales, c'est là que l'enlèvement a eu lieu. Ni son identité précise, ni le motif de son séjour n'ont pu être suffisamment recoupés. Après l'enlèvement, les ravisseurs prennent la direction du Mali voisin. Leur véhicule traverse la frontière vers Tinzawaten, puis gagne la région de Ménaka. Pas de revendication. La frontière Algérie-Mali est dans la zone d'influence du Jnim liée à Al-Qaïda, mais les sources jointes par RFI pointent unanimement l'État islamique au Sahel, ce que le repli dans la région malienne de Ménaka, contrôlée par le IS, semble confirmer. Cet enlèvement est un revers pour l'Algérie qui réussissait depuis plusieurs années à contenir la menace djihadiste sur son territoire. En 2013, la prise d'otage du site gazier d'In Amenas avait fait près de 40 morts. En 2014, un randonneur français avait été exécuté près de Tizi Ouzou par un groupe affilié à l'État islamique.
David Baché, j'ajoute que dans un communiqué, le ministère espagnol des Affaires étrangères assure que le gouvernement travaille activement à clarifier tous les aspects de cette affaire et à parvenir à sa résolution, sans donner de détails en revanche sur les circonstances de sa disparition. L'Espagne qui depuis de longs mois était en négociation avec le Maroc, discussions qui ont abouti puisqu'un premier camion de marchandises a pu quitter cette semaine l'enclave de Melilla pour rejoindre Nador, c'est dans le nord du royaume. Suspendu il y a 6 ans, maintenant le commerce transfrontalier a ainsi repris timidement dans la région. RFI Casablanca, Mathias Reynal.
La déléguée du gouvernement espagnol de cette enclave située dans le nord du Maroc a salué, je cite, un pas de plus vers la normalisation de la frontière. C'est Rabat qui avait décidé en 2018 de fermer la douane commerciale avec Melilla dans un contexte de fortes tensions diplomatiques. 2 ans plus tard, avec la pandémie de Covid-19, les barrières s'abaissent définitivement sur les points de passage de Melilla et de Ceuta, appelés SEPTA par les Marocains. Les frontières n'ont rouvert qu'en mai 2022, après que Madrid a décidé d'afficher son soutien au projet marocain d'autonomie pour le Sahara occidental. Les douanes commerciales, elles, sont restées fermées pour des raisons techniques, selon les autorités espagnoles. Si la relance du commerce a pris du temps, c'est parce que Rabat veut empêcher le retour de l'anarchie et de la contrebande qui ont longtemps été la règle dans la zone, notamment à SEPTA, entraînant une concurrence déloyale pour son économie. Les autorités marocaines n'ont pas confirmé de leur côté la réouverture des douanes commerciales terrestres avec les deux enclaves espagnoles. Interrogé à ce sujet hier en conférence de presse, le porte-parole du gouvernement n'a pas souhaité faire de commentaires. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
L'actualité africaine en bref, 2e et dernier jour de la visite d'État de João Lourenço en France ce vendredi. Hier, le président angolais a notamment participé à une réunion de travail avec son homologue Emmanuel Macron. Il était accompagné d'une dizaine de ministres. Paris et Luanda se sont entre autres engagés à renforcer les consultations politiques sur les enjeux internationaux et régionaux. Au cœur des discussions entre les deux dirigeants, la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, alors que l'Angola se veut toujours médiateur dans la crise qui oppose la RDC de Félix Tshisekedi au Rwanda de Paul Kagame. Plusieurs accords de coopération vont densifier et diversifier le partenariat entre les deux. Paris et Luanda qui ont aussi annoncé la signature de contrats et d'investissements s'élevant à plus de 420 millions d'euros. La mesure avait été décidée il y a près de 4 ans dans l'est de la République démocratique du Congo. Des états de siège pour les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu vont-ils être allégés? La question se pose après cette demande de Félix Tshisekedi, le président, lors d'un conseil des ministres extraordinaire tenu mercredi. Il attend de son équipe une feuille de route, histoire de progressivement mettre fin à ces états de siège. Explication Alexandra Branjon.
Le gouvernement a 15 jours pour remettre au chef de l'État une feuille de route en vue d'une levée progressive de l'état de siège au Nord-Kivu et en Ituri. Cette mesure exceptionnelle avait été décrétée en avril 2021 par le président Tshisekedi pour rétablir la paix dans ces deux provinces menacées par l'insécurité. Mais depuis, son efficacité est remise en cause, à commencer par la société civile et les députés des provinces en question. Cette mesure n'a pas apporté les résultats escomptés, faisait remarquer il y a peu Gratien Hirachan, l'élu de Bounia en Ituri. La levée de cette mesure, avait-il ajouté, permettrait de rétablir les autorités civiles et permettrait ainsi à l'armée de se concentrer sur les opérations militaires contre les rebelles du M23 et des ADF. Il y a 2 mois, la première ministre s'est rendue dans les deux provinces pour dresser un bilan de ce dispositif. La mission a conclu que l'état de siège est encore considéré comme une nécessité, a fait savoir le porte-parole du gouvernement à l'issue de ce Conseil des ministres, tout en ajoutant que le besoin d'alléger davantage le dispositif s'était fait sentir au sein des populations concernées.
Au moins une vingtaine de civils tués dans plusieurs attaques des forces démocratiques alliées. Des attaques qui ont eu lieu mercredi dans le territoire de Lubero, dans la partie septentrionale du Nord-Kivu. Selon l'administrateur militaire du territoire, les incursions ont eu lieu dans le groupement Bulenga, où des civils, dont un chef coutumier, ont été décapités. Le colonel Kiwewa appelle à des mesures urgentes. Un autre responsable local parle d'une situation catastrophique. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, le 17 janvier 2023, disparaissait à Yaoundé, et alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui, l'animateur radio Martinez Zogo, lui qui dans son émission radio s'en prenait à toute forme de corruption, aux puissants également, sans jamais en revanche invectiver le président Paul Biya. Depuis 2 ans, aucune avancée judiciaire, dossier à retrouver en ligne sur RFI.fr, notamment avec le témoignage de Flore Zogo, la sœur aînée de Martinez. Elle, comme ses proches, se dit impuissante face à la lenteur de la justice. Lui referme sa visite officielle en Russie ce vendredi. Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, a rencontré son homologue russe hier, Vladimir Poutine. Très peu d'éléments ont filtré de leur entrevue. Le chef de l'État centrafricain a tout de même salué l'aide apportée par, je le cite, de braves guerriers russes à son pays, où la Russie avait dépêché des mercenaires présentés comme instructeurs militaires. La fin de ce journal en République du Congo et à Brazzaville, la capitale qui vit au rythme des coupures d'électricité. Alors, de plus en plus, les habitants s'y adaptent, et notamment les étudiants qui révisent parfois à la lumière des lampadaires, une pratique qui fait l'objet d'une exposition photo en ce moment dans la capitale. Loïcia Martial est allée à la rencontre des principaux personnages de cette exposition, qui, à la nuit tombée, se plongent dans leur bouquin. Reportage.
La nuit est sur le point de tomber sur Brazzaville. Nous roulons sur la corniche qui borde le fleuve Congo. Au sortir du pont du 15 août, l'obscurité est omniprésente, faute d'électricité. Il faut rouler sur plusieurs kilomètres pour trouver quelques lampadaires qui éclairent la voie, notamment au croisement de la rue Kitenge à Makelekeni. Quelques jeunes élèves révisent leur leçon sous le cône de lumière.
C'est une bonne chose en fait, c'est bien éclairé et il y a de l'air pur, du coup tu as plus de concentration et tu n'as pas du mal à mémoriser tes leçons.
Il y a de l'air pur, donc c'est frais. Quand tu lis, il n'y a pas de dérangement, tu es là au calme. Les leçons, tu as la facilité de retenir ce que tu lis.
Cependant, quelques étudiants évitent parfois la lecture sous les lampadaires.
Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. Et lorsque tu arrives là-bas aussi, tu peux être distrait et la lumière des lampadaires là aussi sur le cahier aussi, ça peut frapper aux yeux et ça peut créer des maux d'yeux, tout ça.
À Brazzaville, quand l'énergie domestique est coupée et les lampadaires ne s'allument pas, les étudiants sont contraints de lire à la lumière de la bougie, voire du téléphone. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Et vous pouvez dès à présent entendre le photographe Baudouin Mwanda à l'origine de cette exposition à l'Institut français du Congo, exposition intitulée « Le fantôme de la corniche ». C'est à voir jusqu'au 12 février à Brazzaville. C'est à vous, Juan Gomez.
Avec les auditeurs de RFI, merci Nemo Nampis, très bonne journée. Prochain grand rendez-vous avec l'actualité africaine.